Salut à tous, Jérémy Royaux pour Scepticisme Scientifique. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier, puisque il y a quelque temps, on avait reçu une invitation pour aller faire le sceptique de service dans une émission d'Evelyne Thomas, qui était
C'est
Ça se
mon choix.
discute ou c'est mon choix, c'est ça?
C'est
C'est
mon
mon
choix, c'était
choix,
mon
c'est mon
choix.
choix. Et c'est Jean-Michel qui a eu la chance ou la malchance, il va nous raconter d'aller là-bas. Voilà, on fait un épisode pour parler un petit peu de ça. Et donc, c'était ce vendredi en fait, hein, donc c'est tout récent. Voilà, mais donc peut-être Jean-Michel, tu peux peut-être un peu nous présenter le contexte déjà de cet événement.
Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est très récent. On avait fait un épisode un peu du même style où on était tous les deux la semaine dernière, mais je me suis dit, il faut quand même qu'on raconte. Ça peut être sympa de. Enfin, c'est intéressant d'en parler peut-être plus en détail, simplement parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Même moi, bon, beaucoup de réflexions sur est-ce qu'on doit aller à ce genre d'émission. Donc, mais finalement, moi, j'ai souvent eu les feedbacks de Florent Martin à ce sujet-là. Mais je pense que ça peut profiter à tous les sceptiques, ont compris au plus ou la génération montante, hein, qui vont se reposer les mêmes questions que les plus âgés, quoi. Est-ce qu'il faut aller à ce genre d'émission? Qu'est-ce que ça apporte? Tant que j'y pense, c'est vrai que je voulais aussi remercier pour les Patreons et alors de manière très sympathique la dernière personne qui a contribué au Patreon pour supporter le podcast, c'est Richard mon voisin. Donc merci Richard, je sais que tu nous écoutes maintenant, il envoie pas mal de commentaires, donc apparemment il écoute bien le podcast. Salut Richard.
Salut.
Voilà, c'était pour lui dire merci d'avoir contribué au Patreon. Voilà, donc je vais faire ça raconter un peu chronologiquement, et puis au fur et à mesure tu réagis, hein, si tu as des questions. Mais donc oui, c'est vrai que juste pour poser le cadre, moi, dans la communauté zététique sceptique francophone, la personne qui va le plus à ce genre d'émission, c'est Florent Martin, qui a un peu la réputation d'être relativement télégénique, en tout cas. Moi, j'étais déjà allé avant celle-ci, j'étais déjà allé à deux émissions. Parce qu'on me pose souvent parfois la question. Moi, j'ai fait deux émissions de TV et une émission radio, quoi, par téléphone. Donc, juste pour donner le contexte, la toute première, c'était quand j'avais plus de 10 ans, donc quand j'étais dans la vingtaine. C'était une émission scientifique de la RTBF qui vous cherchait quelqu'un, un psychologue, pour réaliser une réplication, enfin, reproduire l'expérience de Forer sur l'astrologie pour l'émission. Et ça, c'était Matière grise. Et donc, bon, Matière grise, c'était une émission vraiment sérieuse de scientifique, quoi. Donc, forcément, là, j'étais pas tellement inquiet en allant. Je veux dire, il y a des émissions, évidemment, si on invite à Matière grise, il n'y a pas de raison de stresser, quoi.
Ah ouais, c'est clair.
Et alors, il disait, bah oui, on cherche un jeune psychologue qui serait prêt à, qui voudrait parler de l'effet Forer et puis qui voudrait répliquer avec nous l'expérience pour le en studio. Et bon, voilà, quoi, ça s'est super bien passé, c'était très cool. Voilà, et puis sinon, j'ai fait une autre émission. Ça, c'était une interview sur la voyance. C'était il y a quelques années. C'était après mon retour du Japon, donc ça remonte à 3-4 ans, je pense. Ils m'ont fait venir sur Paris et ils m'ont interviewé pendant 2 heures et demie, je pense, dans leur studio. Et je crois que je suis apparu 25 secondes, montre en main, dans l'émission. Ça, c'est vraiment le sceptique où je faisais une belle grosse généralité du genre tous les voyants sont des charlatans, un truc comme ça. Renaud Evrard,
Avec tout un discours plus nuancé qu'il n'a pas passé à l'antenne, c'est ça?
Exactement, ouais. Renaud Evrard, il m'avait contacté après en disant ouais, ça m'a fait rigoler quand je t'ai vu parce que tu passes en disant. Évidemment, ils ont extrait du bazar tout le truc le moins nuancé que tu pouvais dire pendant. Donc, ça, c'est. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça m'avait pas spécialement dérangé. En plus, voilà, tu vas dans leur studio et. Il t'interviewe pendant une demi-heure. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, tu sais bien qu'il va pas en rester grand-chose. Alors, il y a un petit côté frustrant. Bon, après, quand j'ai vu que c'était. Je n'exagère pas. Enfin, je veux dire, c'était vraiment 25 secondes, quoi. Donc, c'est vrai que tu te tapes Paris pour 25 secondes. C'est un peu.
Et sans savoir quelles 25 secondes ils vont extraire en plus.
Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Et puis, Oui, alors mon autre expérience, c'était une émission radio. Et en fait, c'est celle qui s'est le plus apparentée à ce que j'ai fait avant-hier. Hein. Pour moi, c'était vendredi, donc avant-hier. C'était une émission radio avec où était invité Jean-Claude Bourret, qui est un tenant de l'ufologie. Enfin, c'était un journaliste qui a un peu fait sa gloire sur les sujets un peu fortéens, particulièrement l'ufologie. Et voilà, et là, il m'avait contacté. J'avais eu le journaliste au téléphone. Et puis, moi, directement, la première chose que je fais, c'est de demander qui sera là, qui comptez-vous inviter, quoi. Donc, puisqu'il me contacte, généralement, le journaliste a vraiment une idée très, très vague de qui je suis. Hein. Mais quand je dis très vague, ça veut dire il a vu mon nom sur le site Scepticisme Scientifique. Ils n'ont jamais, par exemple, j'ai jamais eu un journaliste qui m'a contacté en disant j'ai lu vos publications, par exemple, ou je suis allé sur le site Academia pour voir ce que vous avez écrit de scientifique, ou ça n'arrive pas, quoi. C'est
Oui,
toujours.
ils prennent le moyen de recherche le plus rapide et le plus basique qu'il y a, c'est de taper sur Google et il y a
Voilà, ils
les
tapent
noms qui
sur
sortent, quoi.
Google, ils tombent sur Scepticisme Scientifique, ils envoient un email, et puis on a un contact téléphonique, et alors, bon, ils disent, bah voilà, ils demandent, tu t'intéresses aux ovnis, enfin, pour cette émission-là avec Jean-Claude Bourret, c'était sur les ovnis. Et puis je dis oui, et puis voilà. Et alors, évidemment, les journalistes, ils me disent, dans ce cas-là, ils me disaient, ben oui, on va inviter deux personnes en plus de vous. Et puis c'était l'un des deux. Le deuxième, c'était aussi un journaliste spécialisé dans l'ufologie. Donc en gros, c'était un sceptique contre deux tenants, quoi. Et en réalité, dans l'émission, c'était un sceptique contre trois tenants, parce que le journaliste lui-même était complètement. Enfin, il n'était pas très sceptique. Donc, et c'est vrai que ça a tourné un peu. À l'affrontement entre moi et Jean-Claude Bourret, quoi. C'était assez folklorique, quoi. Donc ça a été mes expériences précédentes. Bon, alors, juste pour donner un peu l'idée du contexte, hein. Donc, en gros, c'est vrai que si on prend ça bon, donc ma politique, en fait, à moi, c'est de dire oui à cette bande. Pour le meilleur et pour le pire, ou surtout pour le pire, mais je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques qui partent du principe qu'ils disent non, hein, mais moi, j'ai l'habitude de, enfin, mon principe, c'est de dire oui. Ça veut pas dire que j'ai dit oui à tout. Au cours des années, j'ai eu quelques autres propositions, mais simplement les noms venaient du fait que je travaillais ce jour-là, quoi. Je pouvais pas me libérer. Donc ici, ils m'ont contacté, c'était mardi, et c'était pour une émission qu'on enregistrait le vendredi, donc mercredi, jeudi, 3 jours plus tard. L'enregistrement à Paris d'une émission, donc c'est mon choix. Et normalement, évidemment, par exemple, normalement, moi, je travaille à cette heure-là. Donc, ça aurait été totalement impossible pour moi d'y aller, sauf que par chance, ici, c'est tombé en plein dans les vacances de carnaval. Donc, il se fait que j'étais. Mais c'était vraiment purement du hasard, parce qu'eux, ils tournent toutes les semaines, en fait. Donc, j'ai vraiment eu du bol. Hein. Et on a reçu l'invitation via Scepticisme Scientifique, et en fait, le comité para a aussi reçu une invitation, qu'ils sont revenus vers moi, en gros. Voilà, même si je suis pas membre du comité para, enfin le comité para m'a demandé si j'étais pas intéressé d'y aller, puisqu'en gros c'est un peu ça, j'ai la réputation de dire oui à ce genre de demande. Et sinon, il paraît qu'ils en fait ils avaient contacté, je l'ai découvert bien plus tard, mais ils avaient contacté aussi Florent Martin, qui avait aussi répondu positivement à la demande, mais en fait, ils ne voulaient avoir qu'un seul sceptique. Donc, quand moi j'ai dit oui, ils m'ont sélectionné moi. Pourquoi? Parce que Florent Martin était apparu dans l'émission déjà quelques semaines auparavant.
Ah oui,
Donc, ils ne
d'accord.
voulaient pas avoir deux fois Florent Martin. Il était apparu dans une émission. Là, le seul extrait que j'ai réussi à en voir sur YouTube, c'était avec une voyante qui lisait l'avenir dans les frites.
Ouais, il nous en avait parlé un petit peu, effectivement.
voilà. Et donc, ils nous en avaient parlé où, quand, quoi, comment?
Sur Facebook, je me rappelle qu'il y a une semaine, il a dit qu'il était passé dans une émission, mais il n'y avait pas encore de vidéo disponible.
Ah d'accord, ouais. Non, oui, c'est ça, moi j'avais pas vu l'info passer. C'est quand j'ai tweeté que Florent m'a envoyé un tweet en disant bah oui, j'y suis allé il y a pas longtemps moi-même, voilà quoi. Et j'ai retrouvé sur YouTube la vidéo de la voyance par frites qui a été mise. Enfin, ça donne déjà une idée, quoi. Mais donc c'est intéressant, ils voulaient pas de Voilà, donc ils veulent un seul sceptique. Ça, c'est vraiment la définition du token sceptique, quoi. Il faut surtout pas avoir deux sceptiques sur le plateau, mais.
Mais t'as tout le monde étonnant sauf le sceptique, quoi.
Ouais.
Et donc il y avait un autre invité, hein, c'est ça?
Oui, donc il y avait 4-5 invités. Donc il y avait en fait un couple de chasseurs de fantômes, une médium qui a fait une démonstration de Ouija, une dame qui vit dans une maison hantée.
Ouais.
Donc, il a raconté son expérience. Et j'essaie de voir si j'oublie personne. Je pense qu'on est bon, non? Enfin, donc la médium avec sa Ouija, elle est venue avec sa fille qui était étudiante en psychologie. Et puis, ils ont demandé ce que vous croyez dans votre mère, un truc comme ça. Elle était là pour. Enfin, je reviendrai là-dessus, mais elle était un peu coincée, la fille. Voilà. Et puis, alors, il y avait le fameux Stéphane Alix qui est le cœur du sujet dont on va parler
Ouais.
aujourd'hui, quoi.
Et tu peux rappeler un peu pour les auditeurs qui est Stéphane Alix?
Bah juste déjà pour raconter vraiment chronologiquement, moi la première chose que je fais quand on m'invite à ce genre d'émission, c'est je demande qui sera là, quoi. Parce que voilà, on me contacte, on me dit c'est pour une émission sur le paranormal, déjà c'est super vague, quoi. Alors je dis mais vous voulez dire quoi le paranormal? Bon, il me dit chasseurs de fantômes, maisons hantées, voyance, etc. Bon, ok. Moi je lui dis mais vous savez, bon, ma spécialité c'est le phénomène ovni, mais enfin je peux venir parler d'autres choses, quoi. Et puis alors, j'ai dit, qui sera là? Et en fait, il me dit Stéphane Alix. Bon, Stéphane Alix, moi, je savais que peu de choses sur lui, mais je savais qui c'était de réputation, quoi. C'est-à-dire que je sais que c'est le créateur de l'INRES. Et l'INRES, c'est un institut. Donc, ça se présente comme un institut d'études du paranormal, donc une sorte d'institution parapsychologique qui a été créée et qui est un peu le nouvel IMI en France, quoi. C'est-à-dire que sa popularité est en pleine explosion. Et l'IMI est en train de couler à côté. Enfin bon, je caricature peut-être, mais à mon avis, il n'en est pas loin du coup. Et donc ça, c'est ce que je savais. Et en fait, moi, je suis l'INRES, en tout cas sur Twitter, depuis sa création. Et bah, je veux dire, j'en ai pas une bonne opinion. Je veux dire, c'est de la parapsychologie, mais hyper. Enfin, comment, avec une tendance New Age comme ça. Hein. Donc, oui, ils parlent de parapsychologie, mais de manière totalement non critique. Et en gros, ils vendent de la spiritualité avec un vernis de science, quoi. Par exemple, donc, ils se présentent comme un institut faisant de la recherche parapsychologique, mais ils font en réalité aucune recherche, quoi. Donc, j'ai jamais vu un papier qui sortait de cet institut.
Oui, c'est une sorte de psychologie magazine de paranormal finalement.
Ouais, c'est ça, ce genre de truc. Et alors, donc. Oui, donc en fait, le bouquin, donc Stéphane Alix vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Le Test. Et donc là, dans son livre, il présente ça comme une recherche, quoi. Donc, il répondrait certainement que le genre de recherche qu'on fait à l'INRES, c'est son bouquin. Mais je veux dire, pour moi, c'est juste pas une recherche, quoi. Ça ne tombe pas dans la catégorie recherche scientifique, quoi. Donc, ce qui s'est passé encore une fois chronologiquement, c'est que forcément, une fois qu'on m'a dit que c'était Stéphane Alix qui venait, déjà d'emblée, le journaliste, moi je lui dis oui, bon, à mon avis, pour le peu que je savais, je disais c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux sur le paranormal. Alors il faut savoir que Stéphane Alix était un journaliste de guerre réputé, il était en Afghanistan, et donc apparemment ça lui crée une super crédibilité pour parler du paranormal de manière très bizarroïde. Mais donc en fait, il a commencé à s'intéresser à la médiumnité, etc., à cause du fait que son frère est mort en Afghanistan, quoi, alors qu'il était sur place. Et donc, évidemment, le journaliste, il me dit, oui, mais Stéphane Alix, quand même, c'est quelqu'un de sérieux. Ça a été un journaliste de guerre, ok, quoi. C'est un peu le syndrome Jean-Claude Bourret. Hein. C'est des gens qui se reconvertissent, des journalistes qui ont une certaine crédibilité pour un sujet et puis qui l'utilisent pour faire la promotion de quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Voilà, et alors. Voilà, et puis à un moment je parlais avec le journaliste et puis au téléphone, et puis il me fait mais oui, mais enfin, je dis moi je suis quand même très sceptique, et puis il me fait oui, mais Stéphane Alix il croit pas dans tout, vous savez, il est quand même critique de certaines choses.
Heureusement qu'il croit pas dans tout. Ça n'existe pas, quoi. Qu'est-ce qui croit dans tout?
C'était assez amusant parce que c'est toujours ce truc que, enfin, les journalistes essayent d'être neutres, mais il y a quand même des petits trucs comme ça. Et d'ailleurs, après avoir m'être documenté largement sur Stéphane Alix, j'aimerais bien qu'on me donne un exemple de choses dans lesquelles il ne croit pas. On verra, mais je serais curieux. Mais voilà, donc en fait, l'impression que ça m'a vite donnée en me documentant un peu, c'est que le gars est extrêmement charismatique, il parle très bien. C'est un journaliste, il est plutôt bel homme. Hein. Il a vraiment un capital, il joue sur son capital crédibilité qu'il a acquis en tant que journaliste de guerre. Et évidemment, il a vraiment une approche très professionnelle en tant que communicateur. Donc, il est extrêmement bon en communication. Du coup, je n'étais pas rassuré, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'était quelqu'un qui est redoutable, à mon avis, sur le blanc du débat, quoi. donc j'ai regardé certaines émissions. Entre autres, j'ai regardé une émission de Bob dit la vérité, hein, qui est une émission sur le paranormal, où il présentait son dernier livre, Le Test. Et là, c'était intéressant parce que Stéphane Alix disait à son hôte à la radio, il disait « Oui, je sais bien que ma recherche ne tient pas la route, enfin, il ne le disait pas exactement comme ça, mais n'est pas rigoureuse d'un point de vue parapsychologique parce que j'aurais dû la faire en double aveugle et qu'on pourrait me le reprocher. » Mmh. Je trouvais la remarque super intéressante parce qu'à mon avis, il y a quand même un ou deux chercheurs qui lui ont dit « Écoute, ça ne vaut rien ton truc. » Et il a assimilé la critique, quoi. Mais après, il va vite dans l'anecdotique et l'émotionnel pour contourner cet argument. Donc dans son bouquin, Le Test, en gros, donc je me suis, après, toujours dans un ordre chronologique, j'ai été m'acheter son livre, hein, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce qu'il est déjà sold out dans la librairie universitaire que je fréquente. Donc ça donne, ouais, ce qu'on lit dans ma fac, apparemment. Ils en avaient 10 exemplaires, ils sont tous partis en un jour. Oui, j'ai reçu des chiffres, hein. Le magazine de l'INRES, Inexplorés, vont à 40 000 exemplaires par mois, je pense. Si c'est... 40 000, c'est énorme. Je crois que j'ai participé à une époque à un magazine de science-fiction qui s'appelait Science Fiction Magazine. Il existe encore toujours. On le vendait royalement à 2000 exemplaires. Je crois que celui de la FIS, ça tourne autour des 2500 exemplaires. Donc, si vous imaginez, Inexploré de l'INRES se vend à 4000 exemplaires, 40 000 exemplaires. C'est monstrueux. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Renaud. Il disait, mais ce qui est incroyable, c'est qu'aucun sceptique ne réagit face à Stéphane Alix, quoi. On voit rien passer du côté de la FIS, etc., quoi. Mmh. Alors que le gars est en train de devenir une star du côté... Enfin, c'est le nouveau Jean-Claude Bourret, quoi, en fait. Hein.
Tu nous souffles des idées pour un prochain épisode.
Bah, en fait, on est un peu en train de le faire maintenant. Mmh. On est un peu en train de le faire maintenant, mais c'est vrai que c'est toujours... on revient toujours sur cette fameuse... Moi, je ne me rendais pas compte à quel point le gars est populaire, entre autres parce qu'on est en Belgique, nous. Et que forcément, par exemple, son magazine, on ne le trouve pas en librairie chez nous. Hein. On n'est pas... Et moi, la télé française, je la regarde... Bah, de toute façon, la télé, de manière générale, je ne la regarde plus depuis des belles heurettes. Hein. C'est mon choix, je le regardais. Je crois que c'était quand c'était Delarue qui présentait. Il y a 20 berges, mais... Donc je suis vraiment très, très ignorant de tout ça, quoi. Mais quand j'ai vu le bazar, je me dis, mais ouais, mais attendez, il faut un peu réagir à la montée de ce genre de gars, quoi, parce qu'il fait la promotion de manière... Donc par exemple, pour donner une idée, j'étais à la gare de Paris, Paris Nord, hein, pour prendre le Thalys, bah, dans la librairie là, il y avait une pile de 15 exemplaires, quoi. Hein. Donc en termes il est publié chez Albin Michel, hein, donc en termes de distribution, il est dans tous les médias. Il était sur France Inter, je regardais sur Twitter. Il est dans tous les médias. Et je suis certain que je suis probablement la Le pire, c'est que c'est mon choix, ça va être la seule émission où ils vont avoir un contradicteur sceptique en face. Quoi. Ouais. Merci France Inter de n'avoir invité personne. Donc il est en plein battage médiatique et c'est vrai que c'est marrant. C'est l'éternel truc que les sceptiques sont tellement occupés à casser du, enfin, s'engueuler à propos de politique ou de casser du sucre sur les psychanalystes, que le paranormal, plus personne s'en occupe, quoi. C'est complètement désengagé, quoi. Et donc, son bouquin, quand je l'ai lu, alors je l'ai lu, évidemment, je l'ai trouvé, après, ouais, je l'ai cherché dans 2-3 librairies, et puis j'ai fini par trouver à la Fnac, il y en avait, hein, je fais de la pub pour, je vais me faire engueuler encore par Richard, mon voisin, mais j'ai fait de la pub pour la Fnac. Ouais, donc ils en avaient un paquet là, un beau paquet. Et donc je l'ai lu en 2 jours pour avoir une idée assez précise de ce qu'il racontait. Donc son test, lui, il a perdu son frère dans son accident en Afghanistan, mais alors récemment son père est mort d'une maladie, entre autres, qui a particulièrement, je sais plus trop exactement le diagnostic de mémoire, mais en tout cas, ça avait un impact sur le cœur et la poitrine, quoi. Ce qui est important, parce que vous savez, si pour les médiums, quand ils font des devinettes à haute probabilité, hein, donc dans la lecture froide, si vous avez un homme âgé, la probabilité qu'il meure de quelque chose qui est lié à une douleur dans la poitrine ou au cœur, c'est la cause de mortalité première. Donc le voyant va directement dire un truc du style « je sens une douleur dans ma poitrine ». C'est pas dur de deviner ce genre de choses, quoi. Par contre, si on parle de quelqu'un de jeune dans la vingtaine, alors là, il faut aller vers accident de voiture, accident de moto. Enfin, c'est des techniques de mentaliste qui sont bien documentées, hein. D'ailleurs, enfin les gens le savent pas, mais enfin bizarrement le savent pas, mais des manuels de mentalisme, ça existe. Hein. Les magiciens, ils ont des bouquins qui enseignent ça. Moi, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque en haut. Et j'ai même pas les meilleurs. J'en ai dans l'introduction, mais il y a des gars qui ont écrit des sortes de sommes, des traités théoriques sur comment faire ça. Donc, ce que je viens de donner, ça, c'est un des premiers principes. C'est comme la voyante qui dit l'année prochaine, il y aura environ 12 tremblements de terre dans le monde. Ça, c'est pas de la lecture à froid, c'est de la lecture à chaud, parce qu'en fait les scientifiques savent qu'il y a en moyenne 12 tremblements de terre majeurs dans le monde, donc c'est juste une information qu'on a dans notre tête et qu'il suffit de redonner, quoi.
Et que la personne qui est en face de la voyante ne connaît pas, simplement.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, les causes de mortalité par tranche d'âge, c'est des choses que les mentalistes mémorisent par cœur. Hein. c'est des tables à mémoriser, c'est pas très dur, quoi. Avec après, t'as un arc directionnel, là, il attend cette tranche d'âge, donc la probabilité qu'il soit mort de quelque chose de lié au cœur est telle, donc je commence par annoncer ça. Si je vois que ça passe pas, je transitionnerai vers autre chose, mais... Enfin, c'est des techniques qui s'apprennent, hein. Ça, c'est... voilà. Et donc, son père est mort. Et alors, il a mis des objets dans son cercueil. Qu'il n'a montré à personne, ok. Et les objets en question, c'est des objets qui sont... Donc, il y a une lettre où il dit qu'il dit... Non, parce que ce n'est pas des objets tirés au hasard. Hein, donc, les psychologues, les parapsychologues ou les psychologues, ils utiliseraient un système aléatoire pour déterminer, par exemple, des images... aléatoire ou des objets aléatoires, mais lui évidemment il a choisi des objets, donc les objets c'est une lettre où il dit à son père qu'il l'aime, c'est pas très dur à deviner, hein. Et alors son père était peintre et il a mis des pinceaux et de la couleur, ce qui est pas super dur à deviner non plus si on sait que son père est peintre. et alors il a mis une boussole, ça c'est plus dur à deviner, mais c'est rond une boussole. Et donc voilà, et alors après il a été chez les voyants, mais donc il a sélectionné 6 voyants, mais en fait donc ils sont nommés ces voyants, hein. C'est un fameux coup de pub pour eux, hein. C'est des gens qui sont déjà des stars de la voyance, qui demandent des sommes mirobolantes en termes de consultation par téléphone ou par Skype, etc. Et en plus c'est des gens dont l'INRES fait la promotion depuis un bon moment, quoi. C'est l'INRES qui les a devenus, ça veut dire qu'en fait ils le connaissent bien, tu vois. Et d'ailleurs il le dit dans le livre, il le cache pas, il dit je vais voir ce voyant alors qu'on collabore depuis 5 ans. Ouais, mais je veux dire la masse d'informations que ce gars doit avoir en tête à propos de Stefan Alix, en sachant que Stefan Alix est quelqu'un d'important dans sa profession, quoi. Tu sais. Ouais. En plus, il y a des choses qui s'appellent Facebook et Twitter, enfin, il y a une certaine candeur dans la démarche qui est assez étonnante de ma, enfin, oui. Ou alors il sous-estime vraiment le mentalisme, en fait. Mais moi, si j'étais un voyant, par exemple, je deviendrais ami Facebook avec Stefan Alix directement, quoi. Juste au cas où, dans quelques années, il viendrait me poser des questions.
C'est le bon filon.
Et voilà. Et donc, en gros, donc il y a des transcriptions assez assez complètes de chacune de ces entretiens. Donc d'un point de vue méthodologique, j'ai dit le problème du fait qu'il a mis des objets qui sont en fait liés, qui ne sont pas aléatoires, quoi, et à le fait que lui va chez les voyants, c'est-à-dire que c'est pas en double aveugle. Donc lui, il connaît les objets. Donc les voyants, ils doivent le but du jeu des voyants, c'est d'utiliser la lecture froide pour lui faire, pour leur donner des, pour que il leur donne des indices sur les objets dans le coffre, quoi. Puisque eux, ils vont aller à la pêche, hein. C'était un peu ce que j'aimais bien l'image de Serge Bradmorel. Il disait, on joue à toucher couler, hein. On essaie d'envoyer des trucs dans l'eau. On dit, ce que t'as mis dans le cercueil, ce serait pas un livre. Et puis on voit que ça marche pas bien. Ouais, c'est peut-être quelque chose avec du papier, ça pourrait être carré, hein. Ouais, ce serait peut-être une enveloppe, en fait.
Et tu vois, t'as beaucoup de chance de tomber sur le bon truc.
Voilà. Ouais. Ouais, le truc qui m'a fait le plus rire, mais un des exemples que j'ai donné dans l'émission d'ailleurs, c'est un des voyants qui a dit qu'il y avait un objet rond qui ressemblait à une médaille. Bon, une médaille, il faut visualiser donc tous une médaille. Alors évidemment, c'est considéré comme un hit, un succès, parce que ça ressemble à une boussole, parce qu'une boussole c'est rond, quoi. Je veux dire, si quand le médium dit médaille et qu'on dit bah, ça, il a deviné juste parce que ça ressemble à une boussole, on rend vraiment la tâche très facile aux médias, avec des critères. Donc oui, ça c'est un autre critère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge indépendant, c'est lui-même qui juge de la précision. Donc une façon dont les parapsychologues contournent la critique que je viens de faire, c'est de dire on prend un juge indépendant, il connaît les objets, il connaît la retranscription, mais il n'est pas engagé affectivement dans le bazar, et lui il essaye de comparer Ce qui est dit réellement par les. Donc, on peut avoir deux juges indépendants et puis on fait des stats pour voir s'il y a un bon accord interjuge. En tout cas, essayer d'avoir une certaine objectivité dans l'évaluation de ce qui est dit par rapport aux objets, quoi. Parce que sinon, c'est lui qui estime que, quoi. Parce que ça lui donne des bons sentiments. Il a l'impression d'être en contact avec son père, quoi. Donc, il y avait, vous voyez, tous les défauts, hein. Pas d'aléatoire au niveau de ce qui est mis dans le cercueil. C'est lui qui va chez les médiums alors qu'il aurait très bien pu envoyer un assistant qui n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans le cercueil. Là, ça aurait été vachement plus dur de lui faire de la lecture à froid. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné encore, mais il dit, faut pas dire le nom, ok, mais il donne une photo de son père. Donc, évidemment, la photo de son père donne plein d'informations, quoi. Il met une photo et puis il est super étonné que le médium dit, ce serait pas votre père. D'ailleurs, il décrit jamais le contenu de la photo. Je serais curieux de voir, mais à mon avis, rien qu'à l'apparence, bon, je suis pas franchement impressionné par ce genre de devinage de la part du médium, quoi. Et puis après, il y a le problème du fait qu'il évalue à la louche la pertinence de ce que disent les médiums. Bon, il y a des moments où ils sont plus précis, du genre, ils vont dire des pinceaux, mais le problème, c'est que comme on a la retranscription complète de la conversation, on se rend compte qu'au début de la conversation, ils avaient, par lecture froide, réussi à deviner que le père était peintre. Ben évidemment, si on a deviné que le père est peintre, c'est pas dur de dire pinceau et couleur en fin de conversation, quoi. Qu'est-ce que j'avais encore remarqué comme truc dans son bouquin? Oui, il y a un moment où il dit j'arrête l'enregistrement, et puis il sort de chez le médium, et c'est à ce moment-là, dans la rue, que le médium lui dit des pinceaux, quoi. Donc là, d'un point de vue expérimental, c'est quand tu n'es plus enregistré que tu. Ça, je suis pas sûr que ça passerait super bien dans une expérience robuste de psycho. Ouais, la personne a dit juste, mais j'avais coupé l'enregistrement à ce moment-là, quoi.
C'est ça, c'est super biaisé comme démarche, quoi.
Voilà. Et alors aussi, évidemment, si tu lis attentivement, en réalité, il y a sur ces six médiums, il y en a plusieurs qui échouent complètement à deviner les objets, mais ils considèrent que c'est des échecs, des réussites quand même pour d'autres raisons, quoi. Donc en fait, le critère des objets n'est pas le critère. En gros, à un moment, ils vont réussir, ils vont lui parler de son oncle, hein, qui est mort pendant la guerre, parce qu'apparemment, c'est vraiment dur de deviner que si on a soi-même 45-50 ans, la génération précédente, enfin en termes de génération. Était en calcul d'âge, et on dit bah oui, ils étaient pendant la Seconde Guerre, quoi. C'est pas dur, mais mon père aussi, il était à la guerre. Et si tu prends mon grand-père, t'es pratiquement certain qu'il était dans la Première Guerre mondiale, quoi. Enfin, dire ouais, vos parents, enfin, en fonction de votre âge, quoi, de l'âge de la personne qui vient consulter, vos parents ont été impliqués pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ou enfin, c'est pas très dur à deviner quand on est français, quoi.
Oui, t'as beaucoup de chance de tomber juste.
Oui, c'est un homme. Ouais. S'il avait dit la grand-mère s'est pris une balle dans les tranchées, j'aurais été plus surpris. Mais
C'est clair.
voilà, quoi. Enfin, c'est parce qu'il donne pas des. Enfin, lui, il a l'impression que c'est des détails précis, mais moi, je trouve que. Alors, en plus, quand il donne des détails précis, c'est parce que lui, il n'arrête pas de leur donner. Enfin, en fait, quand tu lis le bouquin, c'est un exemple principe de comment marche la lecture froide, quoi. Moi, j'avais presque envie de. La lecture à froid. J'avais même presque envie de dire, on devrait faire un concours sceptique. Hein. On fait un ça à sceptique au pub. Hein. On achète un manuel d'introduction à la lecture à froid où on explique quelques techniques. Hein. J'en ai expliqué déjà quelques-unes. Et puis on lit le bouquin ensemble. Et à chaque fois qu'on en reconnaît une, on se boit une bière. Quoi. Mais à mon avis, on serait saoul après 3 pages. Quoi.
C'est clair.
Parce que c'est complètement.
Ce qui est plus étonnant, c'est que Stefan Alix, d'office, sait aussi ce que c'est la lecture froide et que malgré ça, il reproduit les mêmes biais, quoi. C'est plus ça qui est surprenant.
Ouais. Parce qu'évidemment, au tout début du bouquin, il t'explique qu'on pense le mentalisme, blablabla. Et puis il dit, bah oui, j'ai mis les objets dans le coffre pour éviter le mentalisme. Alors là, ouais, c'est ça qui est le plus étonnant. Mais bon, si on fait une lecture charitable, je pense qu'il y a un déficit de compréhension de la méthode expérimentale. Mais que je peux passer à un journaliste, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est journaliste de guerre qu'on sait comment faire une expérience qui tient la route. Mais. C'est beaucoup plus critiquable chez le directeur de l'INRES, qui est un institut supposé de recherche en parapsychologie, quoi.
Ouais, c'est pas hyper convaincant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que Stefan Alix ne sait pas ce que c'est, la lecture froide et ce genre de choses. D'office, il sait ce que c'est, puisque c'est une des principales critiques qu'on va renvoyer au type de travaux qu'il produit. Donc ça pose quand même des questions sur le fait
Ouais.
qu'il reproduit quand même ses biais malgré qu'il doit les connaître, quoi.
Oui, donc une lecture favorable, charitable, ce serait de dire, bon voilà, il ne sait pas comment faire une expérience sérieuse de parapsychologie. Bon ça, je peux comprendre, hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, quoi. J'ai lu des manuels sur comment faire des expériences sérieuses de parapsychologie, et ce n'est pas quelque chose que tu sais de manière innée comme ça. une lecture moins charitable, c'est qu'il en a rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que il est déjà convaincu de la véracité des pouvoirs médiumniques. Et d'ailleurs, il le dit au tout début du bouquin. Donc, en fait, il cite les études de Julie Bieschel comme étant... Et Gary Schwartz. Mais Gary Schwartz, il en dit rien. Et Julie Bieschel, c'est un peu la... Elle a pris la succession spirituelle. Enfin, je veux dire, c'était la disciple de Gary Schwartz, quoi. Donc, maintenant, c'est Julie Bieschel. Moi, j'ai lu ses études, évidemment. Et on a fait un épisode du balado où Nicolas Gauvry critique l'étude de Julie Bieschel sur un point de vue méthodologique. Je retrouve le numéro de l'épisode. Mais c'était dans son livre Myths of the Afterlife, en anglais. Hein. C'était un ouvrage collectif de sceptiques sur où il critiquait les tendances du dualiste, hein, qui a du côté des parapsychologues. C'était un livre de critique de la parapsychologie et Nicolas Gauvry a contribué à un article dans ce livre où il critique justement la recherche de Julie Bieschel. Je suis en train de regarder le numéro de l'épisode comme ça. Épisode 283, la recherche de Julie Bieschel, quoi. L'article que critiquait Nicolas Gauvry est de Bieschel et Gary Schwartz. Mais comme je disais, ils sont un peu en collaboration, quoi. Donc évidemment, nous on connaît ses recherches. Et alors, lui, Stéphane Alix, il dit, cette recherche-là, elle prouve définitivement, de manière incontestable, que les médiums savent contacter les morts. Et donc en fait, maintenant, on n'a plus besoin de le prouver. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc moi non, je peux juste aller faire ce que je fais maintenant. C'est pas bien grave si c'est pas très rigoureux, quoi. Mais bon, évidemment, quand ta seule référence est Julie Bieschel, c'est un peu problématique, quoi. Surtout si y a un gros défaut méthodologique dans sa recherche. Entre autres, bon, rapidement, le problème, c'est que elle fait une recherche, elle, qui tient très très bien la route. J'invite les auditeurs à aller réécouter la critique plus détaillée de Nicolas Gauvry. Donc elle est en tripavlogue, donc c'est vraiment beaucoup plus rigoureux. Mais bizarrement, elle donne le nom des personnes au médium, quoi. Et ensuite, elle va présenter deux retranscriptions de lecture des médiums à un sujet qui a perdu un défunt. Je pense, oui. Et elle doit dire quelle est la transcription qui s'applique à son défunt, en fait. Hein. Mmh. Et donc après, ça permet de faire des statistiques. Est-ce qu'elle devine juste ou bien est-ce qu'elle devine au hasard? Le seul problème, c'est que il donne le nom et qu'il y a un système de pairage, c'est-à-dire que ils essayent d'avoir deux sujets bien contrastés, donc par paire qui sont soumises. On va avoir d'un côté quelqu'un qui est plutôt dans la soixantaine et de l'autre plutôt un jeune. Mais en fait, le nom donne souvent des grandes indications d'un point de vue mentalisme sur l'âge des gens, puisqu'il y a des effets de mode des noms. Hein. Je veux dire, si quelqu'un s'appelle Willy, par exemple, comme mon père, on se doute qu'il est plus si jeune que ça, quoi. Par contre, si on est en francophonie et que le gars il s'appelle Kevin, on se doute que c'est une tendance plutôt contemporaine, ouais, et que le gars n'est pas très âgé. Donc, avoir le prénom des gens donne des indications très fortes sur ça. Et les mentalistes, encore une fois, mentalisme, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une profession, mais je veux dire... il y en a qui disent c'est la profession, mais... Un des trucs qu'on fait dans le mentalisme, c'est apprendre par cœur des tables qui indiquent la popularité... des prénoms en fonction des années, hein. Ça se mémorise aussi, quoi. Donc par exemple, j'avais été voir une fois, si mes souvenirs sont bons, Willy, parce que c'est le nom de mon père, mais je crois que le pic de popularité de Willy, ça a été à la fin des années 60, début des années 70. Maintenant c'est plus du tout populaire, on n'en rencontre plus, quoi. Donc voilà, on peut trouver des chiffres assez précis qui permettent de tirer des informations de cet âge, quoi. Et donc ça, c'était la critique qu'avait fait Nicolas Gauvry, qui évidemment tient très bien la route. Mais juste pour dire de ce côté-là, j'avais lu la recherche de Julie Bieschel avant de lire la critique de Gauvry et de Nicolas. Et avant, je me disais, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème de nom. Enfin, beaucoup de sceptiques soulevaient ce problème de nom, mais je ne comprenais pas bien. Mais Nicolas l'expliquait vraiment bien dans l'épisode qu'on a fait de nous. C'est seulement en écoutant l'épisode de Scepticisme scientifique que j'ai vraiment compris. Ah ouais, maintenant, je vois vraiment quel est le problème. Parce que le problème, c'est le système de pairage entre des personnes âgées et pas âgées, quoi. Et là, ça te biaise vraiment tes statistiques, je pense. En tout cas, ça permet vraiment d'expliquer les faits, quoi. Alors moi j'ai écouté par la suite Julie Bieschel, elle dit bah oui, c'est une critique qui tient pas la route, parce qu'en fait dans le papier qui décrit l'expérience, elle ne donne pas les prénoms. Mais alors, à l'oral, elle disait, dans une interview à la radio, elle disait les noms, c'était James, John. Elle dit en réalité que les prénoms que j'avais, ça ne pouvait pas fonctionner. Ok, mais enfin, là, sur base du papier publié dans la littérature, la critique de Gauvry, de Nicolas Gauvry est tout à fait valide à 200%. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, quoi. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est vrai que peut-être que en pratique, les noms des sujets morts, enfin décédés, ne pouvaient pas réellement aider les médiums. Mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que dans une interview récente que j'écoutais d'elle, elle a fait une réplication de sa recherche. Mais elle a pas supprimé ce truc de donner les prénoms, quoi. Et ça, c'est ça qui me titille le plus. Mais si on te reproche de faire une expérience et que tous les sceptiques te disent, ouais, mais les résultats que vous obtenez, c'est à cause du fait que vous donnez les prénoms au médium, quoi. Mais tu te dis que quand tu fais ta réplication ou quand tu essaies de reproduire tes résultats, la première chose que tu vas faire, c'est enlever les foutus prénoms. Or, elle l'a pas fait, quoi. Et ça m'a vraiment perturbé. Le fond, c'est pourquoi est-ce que théoriquement, ce serait si important de donner les prénoms au médium, quoi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire Monsieur 1 ou Monsieur 2 ou Madame 3? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une. Tu vois, d'un point de vue théorique, quoi, comment justifier ça, quoi? C'est comme Stéphane Alix, dans son livre, il dit. Lui, il dit. Ah oui, c'est marrant, parce qu'il présente la recherche de Baichel. Il dit la recherche de Baichel prouve, de manière indiscutable, que les médiums communiquent avec les morts. Elle n'a fait que donner les noms aux médiums. Et puis, à la fin de son livre, il y a un avertissement. Comment aller voir un médium? Si vous allez voir un médium, pour éviter qu'il utilise du mentalisme, il faut absolument rien leur dire. Ne dites surtout pas, même pas ne dites même pas le prénom de la personne. Donc, je lisais ça, je me disais, mais ça contredit complètement. Vous dites qu'il ne faut pas donner le prénom, et puis vous nous présentez comme meilleure recherche celle de Julie Baichel, ou ce qu'elle a fait, c'est de donner les prénoms, quoi. Je me dis, tu t'es parlé quand tu as écrit ton truc, toi. Et alors, lui, il dit, mais par contre, vous pouvez donner une photo, quoi. Et alors, c'est toujours ce critère, c'est comme Julie Baichel, apparemment, pour elle, donner les prénoms, c'est important. Et pour Stéphane Alix, il ne faut pas donner les prénoms, mais une photo, c'est bien, quoi. Moi, j'irais, je dirais Madame 1, Monsieur 2 et Bidule 3, quoi. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, bah c'est clair, bah c'est nouveau un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont visiblement au courant de problèmes méthodologiques qui ont été relevés ou qui sont connus par ailleurs, et malgré ça, ils font le choix de pas en tenir compte. Alors, évidemment, on n'est pas dans leur esprit, on peut pas deviner pourquoi ils font ça, mais je veux dire, bon, une ou deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est soit parce qu'ils savent que de toute façon, la plupart des gens qui s'intéressent à leur recherche, bah, ils s'en foutent un peu de savoir qu'il y a des biais, qu'il n'y a pas des biais, quoi. Et que de toute façon, leur recherche, elle sera populaire et ça, leur bouquin se vendra bien, etc. Et puis voilà, ils savent aussi que les sceptiques, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ces recherches, puisqu'en plus, elles ne sont pas vraiment fort publiées dans la littérature internationale. Donc, peut-être qu'ils pensent que finalement le chemin habituel des publications scientifiques, c'est pas un chemin qui est vraiment nécessaire pour ce type de travail finalement.
Bien sûr, ouais. Enfin, ceci dit, Julie Baichel, elle a publié quand même dans une revue, pas super bien scorée, mais enfin une revue quand même. Mais c'est vrai que ça, après, c'est toujours le problème pour Stéphane Alix de publier des recherches, entre guillemets, si on peut appeler ça une recherche, dans un livre. Mais ça, c'est aussi là, je sais pas si c'est plus franco-français, mais les gens ont l'impression, moi je dis toujours, publier des livres, en philo, on peut publier des livres, c'est un peu l'exception, mais pour la science, le reste, les livres, c'est de la vulgarisation, mais c'est pas de la recherche. Par contre, lui, il dit de lui-même qu'il fait de la recherche, quoi. Il dit, bah oui, ce qui prouve la communication avec les médiums, c'est les recherches de Gary Schwartz, de Julie Belchel. Alors oui, ces gens, ils ont publié au moins dans des revues de parapsychologie, voire parfois d'autres revues de psycho. Et mes propres recherches, et ses propres recherches, c'est tout des bouquins. Ouais, mais c'est pas des recherches, quoi, c'est des bouquins de
Ouais, c'est
vulgarisation, ces
ça.
trucs.
Mais c'est marrant parce que c'est une chose qu'on voit chez beaucoup de tenants. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font des recherches alors que finalement ça ne correspond pas à ce que nous on appelle la recherche, quoi. On voit ça aussi
Ouais,
du
c'est
côté des thérapeutes. Je pense à des gens qui pratiquent l'hypnose par exemple, qui proposent des formations ou des stages de tout et n'importe quoi. Et souvent, voilà, ils appellent leur institut de recherche où ils disent je fais des recherches. Et finalement, bah, quand tu regardes ce qu'ils font, ça correspond pas du tout à ce que scientifiquement on appelle une recherche, quoi.
Ouais, c'est clair. Et dans l'émission de Bob, là, Bob dit la vérité, il y a un jeune qui téléphonait, il disait, oh, je suis vraiment un fan de vous, Stéphane Alix, et j'aimerais être comme vous, un chercheur en parapsychologie. J'ai dit, il n'est pas chercheur en parapsychologie, je suis désolé. Enfin, bon. À ma connaissance, des chercheurs en parapsychologie, en France, il y a Renaud Evrard, il y a Thomas Raberon, moi, si on est généreux. C'est tout quoi, je veux dire. On les compte sur les doigts d'une main et c'est pas les mecs qui publient des bouquins de... du genre de Stéphane Alix quoi. Enfin bon, mais c'est marrant parce que c'est le problème, c'est que ça passe cet argument quoi. En fait finalement, c'était une des leçons que je, plus j'en parle, plus je m'en rends compte, c'est souvent le décalage tellement énorme entre la communauté sceptique et le reste de la population quoi. Ouais. Pour les gens, bah, on écrit des bouquins, on fait de la recherche, mais
je pense que c'est principalement lié au fait que le public n'a pas du tout de notion d'épistémologie de base. Donc en fait, pour eux, entre un témoignage, quelqu'un qui dit j'ai fait une étude avec 6 boîtes et j'ai mis des pièces dedans, et une étude scientifique, pour eux, enfin ce qui nous saute aux yeux comme différence entre les différentes méthodologies, pour eux c'est une chose qui n'existe pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances en fait. Je pense qu'ils ont, pour eux tout se vaut, et ils sont dans une sorte de position relativiste par défaut, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Ben voilà, donc ça, ouais, c'est vrai que finalement, j'ai expliqué beaucoup le contexte avant d'arriver à l'émission
Ouais.
elle-même. Mais bon, en même temps, voilà, quoi, ça donne une idée du. Et puis, je pense que ça valait vraiment la peine qu'on en parle, parce que comme ce gars est en train de devenir vraiment populaire et qu'il y a peu de. Enfin, à vrai dire, pas de réaction jusqu'à présent dans la communauté sceptique, c'est peut-être quand même bien qu'on en parle.
Tout à fait.
Donc voilà, ça c'était en fait ce que je viens de résumer, c'était ma préparation. J'ai terminé de lire le bouquin, j'étais dans le Thalys quoi. Et donc on m'avait contacté pour faire l'émission, enregistrer l'émission à 6h30. Donc en fait j'ai découvert qu'ils enregistraient 5 émissions par jour pendant 2 jours. Donc la présentatrice elle est vraiment bien crevée au bout des 2 jours. Bon après elle a 10 jours de congé, un truc comme ça quoi. Mais donc c'est une sorte de marathon pour elle. Et manque de bol, entre guillemets, nous, on s'est retrouvés, on était la dernière émission de la journée. Donc, normalement, c'était 6h30, mais évidemment, ils avaient pris un retard de fou. Donc, en réalité, on a commencé à enregistrer l'émission, il était 9h30 du soir. Hein. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai un petit garçon. Du coup, à 9h, j'ai vraiment un sérieux coup de barre. Mais j'étais pas le seul. Hein. Dans les autres invités, on était tous, je crois qu'on était tous. Surtout que, donc, moi, je suis arrivé, j'avais pris le Thalys, donc déjà, j'avais voyagé, quoi. Hein. Bah, la plupart des gens voyageaient pour aller. Hein. La plupart des gens n'étaient pas sur Paris. Je pense que Stéphane Alix est sur Paris, mais les autres, je ne suis pas convaincu. Enfin, il n'a pas l'air. Donc, il y avait tout le trajet qu'on a fait. Plus, moi, j'étais quand même très enrhumé, donc malheureusement. Et j'y suis quand même allé, mais c'est vrai que je n'étais pas en super forme, même maintenant, quand je ne suis pas en super forme. Et enfin, voilà, quoi, j'ai fait mon petit soldat sceptique. Ah, oui, au fait, c'est vrai que je n'ai pas mentionné. Mais donc, moi, quand ils m'ont contacté, j'ai quand même vachement hésité à ne pas aller. C'est vrai qu'au départ, surtout quand j'ai vu c'est mon choix, je me suis dit oh là là, je vais pas y aller. C'est la qualité de l'émission n'est pas suffisante quoi. Enfin pour moi c'est mon choix quand ils pensent, on se fait hurler dessus quoi. Et c'est un peu l'idée, est-ce que je vais aller me faire humilier là-bas. Et puis j'ai envoyé un message à l'équipe scepticisme scientifique, donc à toi Thomas, et Nicolas. Et puis Nicolas a dit bon il faudrait quand même y aller. Alors je me suis dit allez, si Nicolas dit qu'il faut y aller, on va y aller quoi. Bah, c'est toujours le fameux truc que j'ai tendance à dire positif. En fait, c'est vrai que c'est l'idée de faire aussi la promotion du podcast, etc. Là, je pense que bon, c'est un peu, j'ai pas été très efficace de ce côté-là. Je suis pas un communicateur professionnel. Mais bon, je suppose que mon nom a été dit. Les gens peuvent toujours googliser s'ils ont de l'intérêt. Donc, je pense qu'en termes de communication, je suis pas le meilleur pour faire la pub. Mais
et donc, comment ça s'est passé alors?
Voilà. Donc, j'y suis allé. J'étais quand même. Bah, pas trop stressé, mais j'étais quand même un peu... voilà, quoi. Enfin, j'étais pas confiant dans mes capacités à faire une bonne émission. Moi, j'y allais en disant, j'y vais, et puis, probablement que ça sera mauvais dans tous les cas, mais qu'au moins, il y aura quand même une présence sceptique, quoi. En gros, c'était pour... Mon objet, c'était d'assurer une présence minimale sceptique, en gros. Et mon optique, c'était de dire... Je me disais, je vais essayer d'être le plus calme et le plus zen possible. Le moins agressif possible, juste être relax et présenter quelques arguments possibles. Et là, je me suis franchement foutu le doigt dans l'œil. Hein. Ouais. Parce que le problème, c'est que l'émission est conçue. Donc, l'émission était conçue pour que je sois l'adversaire de tout le monde. Quoi. Je pense que Oui, c'est ça. Le setting de l'émission était là. Je devais être là pour mettre de l'ambiance, quoi, en gros. pour assurer du conflit sur le plateau, en fait. Hein. Ouais, donc, après, en gros, si tu dis tu veux être relax, bah, tu dois t'opposer à la volonté du staff, quoi, tu vois, qui est là. En même temps, ceci dit, l'impression générale que j'ai eue du staff, en tout cas dans certaines personnes, c'est qu'ils étaient relativement sceptiques eux-mêmes, y compris la présentatrice. Il y avait des, j'étais en fait assez agréablement surpris, quoi. Mais c'est une émission qui a l'air un peu fou. En fait, ils font des sujets comme ça, mais c'est pas pour ça qu'ils y croient, hein, ça c'est clair, quoi. Et donc, quand je suis arrivé à 6h30, ça a pris beaucoup de retard. Enfin, j'étais là à 5h, ça a pris beaucoup de retard, donc j'ai regardé l'enregistrement des émissions qui précédaient, donc ça m'a donné des idées. Enfin, les deux, c'était une soirée paranormale. Donc, la mission d'avance était sur des fakirs. Il y avait un yogi qui restait 15 minutes dans l'eau, dans de l'eau à 0 degré avec des glaçons. Puis après, l'autre, ça aurait plu à Florent Martin. C'était une émission sur l'hypnotisme, les hypnotiseurs de. Ah, bah, ça t'aurait plu aussi. L'hypnotiseur de spectacle, hein, c'est vraiment les grands classiques de l'hypnose de spectacle, quoi. Et là, il n'y avait absolument aucune distance critique par rapport à rien. Enfin, il n'y avait rien, il n'y avait absolument aucune parole sceptique dans celle-là, quoi. Et puis voilà, donc 9h30, on arrive. Alors, on a complètement été maintenus isolés les uns des autres. Donc, le principe, c'est qu'on ne pouvait pas interagir. Ce que je peux comprendre, hein, ils ne voulaient pas qu'on fasse le débat avant l'émission. Et, tu vois, parce que les gens, même ça a été le cas, parce que j'en ai quand même rencontré un peu. J'ai rencontré le chasseur de fantômes avant. Bon, je me suis présenté comme professeur de japonais. Enfin, parce qu'en fait, on était sous surveillance. Il y avait un assistant qui était là pour s'assurer qu'on ne parle pas de l'émission. Voilà, donc, mais c'était marrant. Donc, en fait, le principe de nous garder isolés, je comprends. C'est pour garder la spontanéité sur le plateau, pour éviter qu'on fasse des références. Oui, en coulisses, je t'ai dit que ce qui a quand même eu tendance un peu. Mais en même temps, voilà, c'est aussi pour générer les relations spontanées de conflit, en fait. Quoi, t'es un sceptique, quoi, tu vois. Mais en tout cas, on leur avait quand même dit qu'il y avait ce que eux appelaient un détracteur, quoi. Donc, je les écoutais parler entre eux juste avant de monter dans la salle, rentrer dans la salle. Et ils discutaient. En fait, ils croyaient qu'il y avait Stéphane Alix qui était là, mais les médiums et tout ça, ils ne savaient pas qui c'était. Et ils me disent, ah oui, c'est lui qui a écrit un bouquin, c'est lui le détracteur. Je dis non, c'est pas lui le détracteur c'est moi en fait. non, mais ouais, c'était assez folklorique. Donc Stéphane Alix était clairement là pour venir faire la promotion de son bouquin, puisque comme je l'ai dit, il est en train de faire les tournées des plateaux et des émissions de radio. Il était là avec son bouquin, hein, très professionnel comme ça. Et donc, pour maximiser le conflit, en fait, ils ont fait d'abord rentrer un chasseur de fantômes. Donc là, c'était un couple. Ils utilisaient de la radiesthésie pour détecter la présence de fantômes, quoi. Donc déjà, ça donnait, enfin, une ambiance un peu, tu vois, tout le monde. Parce que bon, voilà, il expliquait qu'il lui demandait 500 euros pour chasser un fantôme d'une maison qu'il avait détectée au pendule, quoi. Et juste même aux questions posées, tu sentais que la journaliste était un peu. En fait, elle lui a demandé combien vous demandez pour. En fait, elle fait pas des remarques sceptiques, mais la question est quand même chargée, quoi. Combien vous demandez pour chasser un fantôme, quoi. Et puis elle a fait venir Stéphane Alix. Et donc il a présenté son bouquin, comme je l'ai expliqué, de façon extrêmement favorable, quoi. Enfin, forcément, il vantait les mérites de son expérience. Et alors, ouais, ils m'ont fait rentrer après directement, quoi. Donc c'était l'invité suivant. Et ouais, moi je me suis dit, ils vont me poser des questions, parce que dans la préparation, ils m'ont posé des tas de questions, y compris sur le Japon, etc. Tu vois, je me dis, ils vont un peu chatter sur c'est quoi la zététique, etc. Et je savais qu'à un moment, ils allaient me dire, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de Stéphane Alix, quoi. Tu vois, mais je me dis, je vais pouvoir commencer en douceur Et puis bon, présenter un peu c'est quoi le scepticisme, la zététique. Et puis une fois qu'on arrive à qu'est-ce que vous pensez, dire un avis un peu, ouais, je suis pas très convaincu par son expérience, tu vois, grommeler un truc qui fait comprendre. Et ça, c'était mon plan, hein, de stratégique. Et ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'en fait, elle m'a demandé, donc, elle a attaqué, hein, avec une question du genre, donc vous n'y croyez pas du tout dans les médiums. Tu vois le framing du
Ouais,
bazar, quoi.
comment te pour te pousser à directement de la confrontation, quoi.
Ouais. Ah, elle avait aussi des questions. Et vous pensez que tous les médiums sont des charlatans, mais ça c'était un peu plus tard, quoi. Tu vois le vocabulaire. Donc la façon dont les questions sont posées, elles sont là pour maximiser le conflit entre. Parce que t'as évidemment trois chasseurs de fantômes, deux médiums et une voyante dans les autres invités qui peuvent réagir à chaud à ce que tu dis, quoi. Tu vois. Et alors, et donc, ouais, moi, je me dis, je commence relax. Enfin, c'était ma première phrase, quoi. Je dis un truc du style, le consensus dans la communauté scientifique, c'est que les médiums utilisent de la lecture à froid. Et Stéphane Alix, il est parti balistique à ce moment-là, quoi. Il s'est mis à me gueuler dessus comme du poisson pourri. Mais vraiment, il a pété les plombs. Parce que c'était assez marrant, parce que Renaud Emerave disait il est assez calme et pas très agressif. Mais, et c'est
Ouais.
vrai que dans les émissions radio que j'ai vues, il maîtrise bien, quoi. C'est un professionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais. Enfin, si j'ai des explications. Un, on était crevés, il était 9h30. Donc, il était peut-être plus très patient, et moi non plus d'ailleurs. On était tous fatigués et irritables, quoi. Et deux, mon interprétation à moi, c'est que il n'était pas du tout préparé à la présence d'un sceptique, quoi. Et en fait, quand j'ai dit ça, dans sa tête, il s'est dit, merde, je viens de me faire entuber, quoi. Tu vois? Il a réalisé qu'en fait, l'émission, c'était un piège à con, quoi. Tu vois? Et qu'il allait s'en prendre plein la gueule.
Pourtant, vu qu'il est journaliste, il devait savoir où il mettait les pieds, quoi.
Mais c'est exactement ce que je me suis dit, quoi. Sur le, dans ma tête, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, mais allez, quoi. Moi, je suis pas un professionnel du journalisme, hein. J'ai fait trois émissions en 15 ans, quoi. La première chose que je demande, c'est qui sera sur le plateau, quoi. Tu vois? Et le journaliste me l'a dit directement. Et je sais bien que les autres médiums, ils étaient en train de dire, oui, il y aura un détracteur. Donc, ils savaient qu'il y avait un sceptique, quoi. Mais visiblement, Stéphane Alix, je sais pas, il s'en foutait, il l'avait pas préparé. Il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais. Donc, il a sorti tous ses arguments contre les sceptiques de base, quoi. Il argumentait contre les sceptiques qui existent dans sa tête, ce qui est un grand classique, quoi. Et tu te dis, mais allez, il aurait pu demander. Enfin, moi, j'ai demandé qui sera. On m'a dit Stéphane Alix. Donc, s'il avait demandé, on lui avait dit, ouais, il y aura un sceptique, il aurait pu dire qui c'est. On lui aurait dit, bah, Jean-Michel Labrassard. Il aurait pu un peu regarder, tu vois. Mais visiblement, clairement, pas, rien fait, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a foutu dedans, quoi. Mais bon, maintenant, je ne sais pas du tout si je sors beaucoup, si de tout ça, je sors. Glorieux ou pas, je pense pas, même pas, mais parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que dans les 5 premières minutes, c'était à qui gueulait le plus fort sur le plateau, quoi. Parce qu'en fait, j'avais plus le choix, en gros. J'étais coincé puisque lui, il gueulait et puis il m'interrompait dès que je parlais, quoi, même la présentatrice. Et donc, il a attaqué sur son angle d'attaque, c'était vous êtes complètement incompétent, vous êtes peut-être un scientifique, mais vous savez pas de quoi vous parlez. Ce que vous dites est complètement faux. La communauté sceptique, la communauté scientifique, le consensus dans la communauté scientifique, c'est que les médiums savent parler avec les morts.
Ah, n'importe quoi. C'est que des insultes, quoi, en gros, quoi.
Pardon. Mais ce qui a été super intéressant, c'est qu'il s'est calmé en fait. Et que tout d'un coup, j'ai quasiment pu voir qu'il était en train de se dire merde, j'ai la mauvaise stratégie, là j'aurais pas dû m'énerver comme ça, quoi. Mais pendant, en tout cas, pendant les 3 premières minutes où il réagit à chaud, quoi. Il a vraiment pété les plombs, quoi. Et après, il s'est beaucoup plus calmé, quoi. Après, c'était marrant. Dans la deuxième, vers la fin de l'émission, j'ai l'impression qu'on était plus copains qu'autre chose. Tout d'un coup, il était, ouais, mais en fait, ouais, je suis d'accord avec ça. Il a essayé de se rattraper, quoi. Mais sa réaction initiale, c'était vraiment la réaction émotionnelle à fond, quoi. Et oui, il a aussi attaqué sur le truc le plus surréaliste, entre guillemets, qui prouvait vraiment qu'il me prenait pour un con, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, le fait qu'ils disent vous connaissez pas la littérature, vous êtes, enfin, tu vois, visiblement, il avait aucune idée de qui j'étais, quoi. Je veux dire, t'aurais googlisé scepticisme scientifique, t'aurais écouté un épisode, on t'aurait
Ouais,
tapé.
comme tu dis, il n'avait pas posé la question, donc en fait, il savait pas du tout qui t'étais ni
Ouais.
pourquoi t'étais là, quoi.
Et en fait, il pensait que j'étais le sceptique de base, qui ne connaît rien au paranormal, évidemment, quoi. Et alors aussi, avant que je monte sur le plateau, il était en phase. Oui, la journaliste lui avait demandé qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les conclusions de votre livre? Est-ce que et elle voulait savoir s'il pensait que les médiums avaient réussi à deviner les objets, évidemment, quoi. Et alors il lui a répondu, quoi, vous n'avez pas lu mon livre? C'est un peu avec un ton semi-agressif comme ça, un peu passif agressif. Ouais, c'était clair que la journaliste n'avait pas lu son livre, hein, soyons clairs.
Ça, évidemment.
Mais je
Quatre
m'attendais pas
émissions
du tout.
par jour.
Elle va pas lire tous les bouquins de tous les gens qui viennent, quoi. Il faut pas déconner. Et alors, donc c'était dans les 3 premières minutes là, hein, il l'a attaqué sur vous ne savez pas, vous êtes incompétent. Les scientifiques pensent que le consensus scientifique c'est pas le scepticisme, quoi. Et alors après, à ce moment-là, je crois que j'avais même pas le temps de réagir. Mais après, il a attaqué sur visiblement, vous n'avez pas lu mon livre, quoi. Parce qu'évidemment, si j'avais lu son livre, j'aurais su à quel point c'était sérieux son bouquin. Donc là, je l'ai un peu laissé déverser son truc, et puis je lui ai dit, ben non, j'ai lu votre bouquin. Et alors, évidemment, j'ai commencé à donner à plein de détails sur son bouquin, puisque je l'avais lu les 2 derniers jours, quoi. En gros, ce que j'ai fait juste avant qu'on arrive à la description de l'émission elle-même. Et là, Enfin, pour lui, c'était vraiment pas très stratégique d'un point de vue rhétorique, quoi. Je pense que ça a été clair qu'il disait que j'avais pas lu mon livre alors que j'avais clairement lu son livre, quoi. Voilà. Donc, pour le reste de l'émission, il s'est calmé, en fait. À un moment, j'étais en train de détailler mes critiques de son livre, un peu comme je l'ai fait là au début. Bon, ici, dans l'émission, j'avais beaucoup plus de temps, d'espace, et j'étais beaucoup moins stressé parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de me hurler dessus. Mais grosso modo, j'ai tenté de présenter les mêmes informations. Je l'ai certainement beaucoup mieux fait ici. Et alors, à un moment, il s'est tu, quoi. Il a dit, visiblement pris la décision d'arrêter de crier, quoi. Et après, ça a été moins dans la confrontation comme ça. Alors, ouais, sa stratégie après, une fois qu'il s'est calmé, ça a été d'essayer de me présenter comme un scientifique borné, en gros. Oui, bah, il faut être ouvert d'esprit. La science a évolué. La vieille génération de scientifiques meurt et puis les nouveaux changent de paradigme. Voilà, quoi. Ouais. Parce que je fais partie de la vieille génération. Donc, en gros, sa stratégie, ça a été ça, quoi. Et puis, je ne suis pas gentil avec les médiums, je les crois pas sur parole. Donc, ce qui était beaucoup plus intelligent en termes de rhétorique, je pense, d'essayer de me peindre.
Oui, après, ça reste de la rhétorique, quoi, effectivement. C'est pas des arguments, quoi.
Mais dans la deuxième partie, en fait, il a fait ce que j'attendais à ce qu'il fasse au départ.
Ouais, ouais.
Mais ce qui m'a, parce que ça, c'était vraiment malin, en fait, essayer de me peindre comme un scientifique borné. Mais c'était très marrant parce qu'au début, avant que j'arrive, quand il était seul dans son bouquin, en gros, il dit mon bouquin prouve la vie après la mort à cause principalement de l'étude de Julie Bichel, mais bon. Et puis sur le plateau, c'est ce qu'il dit aussi, quoi. Il disait ouais, ben voilà, il vend son bouquin comme étant la preuve de la prévie, quoi. Et puis une fois que je suis arrivé sur le plateau et que j'ai dit non, le consensus scientifique, c'est la lecture à froid. Et alors il a dit c'est pas vrai, c'est faux, vous ne savez rien. Et puis après, dans la dernière partie de l'émission, il disait plutôt oui, c'est vrai que certains scientifiques sont encore sceptiques, mais il y a des scientifiques qui font des recherches et qui ont un avis différent. Ouais, mais attends, c'est vachement plus nuancé, ça, quoi. Si t'avais dit ça depuis le début, j'aurais beaucoup moins de problèmes avec ça, quoi. Là, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais je suis désolé, c'est pas ce que tu disais il y a 5 minutes, quoi. Et en gros, c'était marrant de voir comment j'étais obligé de lui mettre de l'eau dans son vin, quoi. Voilà. Et puis après, on a terminé. Il était 11h30 et j'étais dans mon lit vers minuit pour donner une idée de timing à quel point on était fatigué, quoi.
Et finalement, par rapport aux autres invités, pour chaque invité, t'as eu l'occasion de dire quelque chose, alors, en fait.
Oui et non.
Par rapport aux fantômes, etc.
C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe m'avait dit n'hésite pas à commenter tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, en gros, je pouvais rentrer dans l'art de tout le monde de manière générale et spécifique. Mais franchement, j'avais pas envie de le faire, quoi. Moi, j'ai trouvé ça émotionnellement très très dur, hein, l'émission. Franchement, je crois que la nuit qui a suivi, j'ai pas dormi, je crois. Parce que on va peut-être parler de mes impressions générales aussi de l'exercice en lui-même. Mais donc, moi, j'ai trouvé bon l'exercice est extrêmement difficile, quoi. Je sais qu'il y a certains des moments où j'ai bafouillé. C'était vraiment très très dur parce que t'es tellement sous pression quand t'es dans une situation aussi agressive, quoi. Quand t'es dans un débat, mais c'est pas un débat d'idées où chacun a un temps de parole. C'est un débat d'idées où les gens ont réagi de manière hyper émotionnelle, quoi. Et même si tu te dis reste calme, sois zen et tout, quand t'as quelqu'un qui t'hurle dessus, ou les autres réagissaient aussi, hein, les chasseurs de fantômes et les moyens, ils étaient plus posés, moins agressifs, mais c'était quand même. Et alors? Donc voilà, émotionnellement, pour moi, j'ai trouvé ça très dur. Et en plus, il y a l'aspect qui m'a dérangé, c'est l'aspect... J'ai eu la sensation que pour eux, c'était un piège, tu vois. C'est-à-dire que... Bon, Stéphane Alix, tu vois, je suis moins... OK, il fait la promotion de son bouquin, il gagne sa vie avec ça. Je pense que, entre guillemets, ça devrait faire partie de sa profession de s'en prendre plein la gueule de la plupart des sceptiques, quoi. Mais le chasseur de fantômes du coin ou la voyante, la médium lambda, etc., on lui téléphone, on lui dit « Viens à une émission ». Elle dit « Bah oui, je veux venir ». Et puis tu arrives et tu as un sceptique qui te casse, quoi, en direct, ouais. En live, sur une chaîne nationale. Quoi. Tu t'imagines, quoi. Évidemment, tu as signé un document avant de rentrer sur le plateau, comme quoi tu acceptais que quoi que tu dises sur le plateau, tu acceptais la diffusion, quoi.
Ça explique d'ailleurs en quoi, dans certains types d'émissions de pseudo-débats, bien connu. C'est tout le temps les mêmes invités pour un domaine qui viennent, parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'agresser un peu tout le monde, et comme ça plaît bien, ils sont chaque fois invités, quoi, en gros, quoi.
Ouais, c'est ça quoi. Mais vraiment, moi je me sentais mal humainement parlant quoi, tu vois. Même pour Stéphane Alix, dans le sens où moi j'ai l'impression qu'il s'est quand même un peu fait avoir, tu vois, il s'y attendait pas quoi. Or c'était vraiment finalement l'idée de l'émission quoi, de dire ouais, on va trouver un intervenant qui va le casser en direct quoi. Parce que finalement elle m'a demandé vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Je dis mais son expérience elle vaut rien quoi. Et elle m'a demandé qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Ben, il n'aurait pas dû aller voir les médiums lui-même, quoi. Donc, tu vois, je suis quand même en train de dire tout son bouquin, c'est de la merde, quoi. Même si c'est pas le vocabulaire que j'utilise, quoi. Donc, mais bon, alors encore une fois, je veux dire, c'est un professionnel, voilà, quoi. Je veux dire, en gros, de toute façon, son bouquin va être un best-seller, quoi que je dise, hein, donc voilà. C'est pas moi qui vais diminuer sa popularité, au contraire, puisque je pense que c'est toujours le fameux truc quand on regarde les débats. On est d'accord avec on a une opinion au départ et on est d'accord avec la personne avec qui on est d'accord au départ. Donc, les fans de Stéphane Alix, ils vont tous me détester, et puis voilà, quoi. Et les gens un peu avec une formation scientifique, ils vont approuver ce que j'ai dit, quoi. D'ailleurs, je l'ai même vécu en live après, en sortant de l'émission, quoi. Je me suis fait aborder par quelqu'un, un des spectateurs. Il m'a dit, ah, oh, moi, je suis un étudiant en chimie, j'ai vraiment bien aimé votre intervention, etc. Donc, en gros, les gens qui sont réceptifs au type d'arguments que je déploie, ça va leur plaire. Et puis ceux qui sont réceptifs à l'approche anecdotique et émotionnelle de Stéphane Alix, ça va leur plaire. Ils vont pas adhérer, quoi. Enfin, en fait, il faut un peu maîtriser la méthode scientifique pour comprendre, quoi. Mais donc, ouais, sur le plan humain, c'est super dur. Il y avait même la fille de la médium. Normalement, elle devait pas apparaître dans l'émission. Et puis, il manquait un invité. Alors ils l'ont fait aller et puis ils lui ont demandé est-ce que vous croyez dans les pouvoirs de votre mère, quoi. Et la fille, elle est étudiante en psycho, troisième année, et elle est passée après moi, quoi. Tu vois, donc t'es à la TV sur une chaîne nationale et on te demande est-ce que tu penses que les pouvoirs de ta mère sont authentiques,
Ah,
et tu viens de m'entendre moi, quoi.
c'est vache quoi.
Non mais
C'est vache quand même.
franchement, j'étais super mal, quoi. Tu te dis, mais c'est le piège total, quoi. Elle va quand même pas casser du sucre sur sa mère, quoi, en disant non, ma mère est conne. Enfin,
Et en même temps, si elle dit trop qu'elle y croit, après c'est tous les gens qui la connaissent
c'est ça,
qui vont se
quoi.
dire qu'elle est
J'ai dit.
frappée vive.
D'ailleurs, elle, j'étais à côté d'elle dans l'émission, et il y a eu un break dans l'émission. Je lui ai demandé, ça va. Enfin, franchement, je. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle m'a répondu, il y a des jours où j'aimerais bien que ma mère soit médecin ou avocate, quoi. Je peux comprendre le sentiment en général, quoi. Mais tu vois que, franchement, émotionnellement, mais c'est super dur, quoi. Voilà. Et donc, ouais, voilà, je suis revenu, j'étais complètement énervé. Enfin, ouais, j'ai quasiment pas pu dormir de la nuit. Je trouve que, je sais pas l'émission qu'a fait Florent, mais bon, moi, la mienne était particulière parce que la présence de Stéphane Alix, ça fait que l'approche cool et relax de la zététique était totalement impossible, quoi. Donc,
Ouais, ça c'est quand même embêtant, ouais.
ouais, donc j'étais
Est-ce que
d'à
tu
côté.
sais, par rapport à ce qui sera diffusé, tes interventions globalement seront dans l'émission finale?
Bah, écoute, ils m'ont dit que ils enregistraient. J'ai pas chronométré, mais en gros, ils enregistrent 1 heure et demie pour conserver 45 minutes. Mais il y a quand même des coupures, etc. Du style, ils ont dû amener la table de Ouija et des choses comme ça. Donc, ouais, à ma connaissance, enfin, à mon impression générale, c'est que la majorité de mes interventions vont y être, quoi. Et particulièrement, en fait, toute la partie avec Stéphane Alix. Parce qu'on se demandait, enfin, je sais pas, quelqu'un me disait, mais oui, ils vont y éditer la partie où Stéphane Alix s'énerve. Moi, c'est pas mon impression générale, parce que pour eux, c'était le cœur de l'émission,
Ouais,
quoi. Enfin,
c'est ce qui les intéressait le plus à mon avis, quoi.
donc ils vont certainement pas enlever
Non,
la
non, non.
partie où il s'énerve et la partie où je lui réponds, quoi. C'est dans le reste qu'ils vont enlever. Donc les petites interventions plus relaxes que j'ai fait par la suite, ça, elles peuvent passer. Et parfois peut-être avec raison, parce qu'il y a certains des moments où je bafouillais un peu, parce que j'étais déjà, enfin voilà, quoi, j'étais déjà sur les nerfs.
Ouais, il faut presque y aller en prenant du Xanax, quoi.
Voilà mon impression générale de l'émission.
Et
Moi, ouais.
si une question que j'aurais envie de te poser, c'est finalement quand on voit le résultat, enfin nous on l'a pas encore vu, mais par rapport à toi. Est-ce que tu as l'impression que finalement ça valait la peine d'y aller, ou que ça peut produire, quelque chose qui est utile pour le scepticisme?
Oui, bah, c'est vraiment une question difficile. Mon impression générale, enfin évidemment, le format général de l'émission, il est pas fait pour avoir un débat d'idées serein et relax, quoi, tu vois. Je veux dire, ce serait facile d'imaginer une émission où tu vas dire, tu pourrais imaginer, allez, quelqu'un qui veut traiter sérieusement du paranormal pour de vrai, hein, il pourrait inviter, je sais pas, Florent Martin, moi. Renaud Évrard et Thomas Rabéron, bon allez, Bertrand Meillaud, soyons fous, sur un plateau. Et là, tu auras une vraie émission de fond sur la parapsy,
Ouais,
quoi.
avec un vrai débat, quoi.
Avec un vrai débat. Mais ça les intéresse pas, ils en ont rien à foutre de ça.
Ouais, bah personne, ça n'intéresserait pas le public, quoi.
C'est ça le truc, quoi. Donc évidemment, c'est toujours ça. Je pense qu'un sentiment de frustration est inévitable, hein. Une telle émission n'aura jamais lieu, quoi. Donc. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer à aller à ces émissions malgré tout? Encore une fois, hein, je trouve que sur le plan humain, franchement, je veux dire, c'est vraiment super dur pour moi parce que j'ai été le méchant, quoi. Tu vois, c'est vraiment, Et en même temps, bon, je sais que je sais le faire, hein, je sais être le méchant sceptique. Je l'ai assez été dans ma vie. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que, enfin, toi, tu sais bien que j'ai des positions assez nuancées sur la parapsychologie, donc j'étais pas du tout obligé d'être mis dans cette position-là, quoi. Mais dans cette émission, j'avais pas le choix, quoi, en gros. Et c'est vrai que c'est vraiment super dur Ouais, c'est ça. En gros, la mission, c'est tu dois humilier un groupe de personnes, quoi. C'est vraiment super dur. Donc, alors, bon, ça ne veut pas dire que je ne le ferai plus, hein, mais c'est quand même. Je pense que si un sceptique on lui propose d'aller à l'émission, bah, il faut qu'il à une émission similaire, il faut qu'il le sache, qu'il soit prêt à ça, quoi. De se dire, parce que tout le monde m'a dit, ouais, vas-y, relax, c'est non agressif. Bah, je pense que, ouais, dans mon émission, c'était impossible, voilà, quoi. Donc, j'étais tout autant piégé que les autres, finalement, hein. C'est pas toi qui décides si tu vas être relax ou pas, c'est le
Ouais,
concepteur de l'émission.
d'office, ouais, ça c'est ce qu'on voit dans d'autres émissions aussi, hein. Je pense aux émissions à la Ruquier, tout ça, c'est un peu la même idée, quoi. Même si t'as des situations où si toi tu y vas relax agressif, bah, soit tu te fais critiquer et t'as pas le temps de parler parce que les autres gueulent pendant 10 minutes, donc à un moment t'es obligé de forcer un peu la parole aussi, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, parce que si je forçais pas la parole, c'est Stéphane Alix qui parlait non-stop
Ah ouais, c'est ça, c'est
et
vraiment le
j'avais plus rien
format est
à
fait
dire,
pour
quoi.
ça, quoi.
Donc ça c'est les aspects négatifs. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on peut avoir des tas de discussions méta sur l'utilité. C'est vrai qu'évidemment, par exemple, il m'avait mis à côté de Stéphane Alix, pas pour rien. Hein. Tu vois, je veux dire, c'était en position centrale, donc j'avais la médium à ma droite et lui il avait les chasseurs de façon, tu vois, enfin, se dire c'était conçu comme ça. Évidemment, on peut toujours dire ça confirme l'idée qu'il y a un vrai débat sur ces sujets-là, qu'il défend une position légitime, en gros. Hein. C'est le fameux truc qu'on met un créationniste et un scientifique face à l'un à l'autre, quoi. Donc il y avait cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, mon opinion générale, après avoir fait l'émission, c'est que si tu es un scientifique qui a une carrière académique, par exemple, puisqu'on en avait parlé avec Nicolas Gory, il faut pas y aller. Donc, a priori, on se dit, bah oui, Nicolas, il est dans la région de Paris, donc pour lui, c'est facile d'y aller, mais franchement, mon opinion, c'est non, il faut pas qu'il y aille, quoi. Les mecs comme Florent Martin et moi, on n'a pas de carrière académique, donc on est de la chair à canon sceptique, en gros. On peut aller faire le token sceptique sur un plateau, mais je crois qu'effectivement, vraiment, c'était bien qu'évidemment, moi, quand j'étais sur le plateau, je me suis présenté comme un scientifique respectable, hein. Mais
Mais t'as pas d'image
j'ai pas
médiatique au
d'image à dé...
public,
ouais,
donc
j'ai pas d'image
toi
médiatique,
tu t'en fous, quoi.
j'ai pas un patron, j'ai pas un directeur, un recteur ou des collègues de fac qui vont regarder l'émission et qui vont se foutre de ma gueule après, quoi. Donc j'ai pas vraiment de j'ai pas d'image, enfin j'ai pas de carrière à défendre d'un point de vue académique, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça, quoi. Je pense que quelqu'un, je veux dire, par exemple, des gens comme Gérard Bronner et tout ça qui font des carrières académiques, je pense que c'est pas leur rôle d'aller sur ce genre de plateau, quoi. je me suis vraiment dit, bah oui, moi, c'était Florent Martin, en fait, des sceptiques un peu de base comme ça, toi par exemple, ou des gens qui sont aseptiques au pub, ou des gens comme ça, bon, ils doivent arriver à convaincre les réalisateurs de l'émission qui sont légitimes sur un plateau, mais c'est beaucoup mieux d'envoyer ces gens-là que d'envoyer des gens qui ont des vraies carrières, quoi.
Ouais, d'office.
Donc ça, c'était un des points. Et puis l'autre point, c'est que ouais, enfin, ça m'a encore particulièrement frappé à cette émission-là, mais souvent, je me rends récemment, parce que j'ai mes élèves aussi au cours de japonais qui, bah, je suis, voilà, j'interagis avec des gens dans la vie de tous les jours, quoi. Bon, moi, c'est à mon cours, j'ai des élèves, et certains ont évidemment des croyances soit paranormales, soit dans les médecines pseudo-médecine alternative, et c'est toujours le décalage entre ce que les sceptiques lisent et connaissent et savent de la méthode scientifique et le grand public, quoi. Et du coup, le décalage. En fait, avec le temps, nous, on est un peu dans une bulle intellectuelle comme ça. On est entouré de tous des gens qui lisent la littérature scientifique. Et ouais, on est des gros brôleurs intellectuels, en fait. Du coup, quand on se retrouve dans la population qui fait juste regarder des émissions TV, voilà, qui s'intéresse pas à tout ça, le choc est vraiment rude, quoi. Par exemple, dans l'émission là, il y en a une qui a fait une démonstration de Ouija, et dans le public, il y avait des gens qui voulaient partir, quoi, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des démons qui se manifestent à cause du Ouija, quoi.
Ouais, d'accord.
Alors, honnêtement, ça m'a impressionné, quoi. On en est encore là, quoi. Franchement, j'étais vraiment scié, quoi. Et d'ailleurs, Stéphane Alix a fait une remarque comme quoi, lui, le Ouija, c'était hyper dangereux, quoi, tu vois. Qu'il fallait pas faire parce que ça invoquait des mauvais esprits, enfin.
Ouais,
Parce
ok.
que il paraît qu'il est sceptique de certaines choses, mais j'ai pas encore découvert, quoi.
Il y a certainement quelque chose si on cherche.
Voilà. Donc ouais, non, c'est ça qui m'a frappé. Ouais, cette image de, elle veut faire une séance de Ouija, et des gens dans la salle disent non, non, je veux pas rester, quoi. Ça m'a vraiment, ouais, pour moi, ça me fait un choc, quoi. Je me dis, putain, on en est encore là, quoi. Tu vois, le spiritualisme et le spiritisme, c'est du 19e, quoi. C'est des débats qu'on a déjà eus. Ils sont morts et enterrés, ces débats, quoi. Ouais, enfin, voilà, quoi. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que personnellement, je trouve que je suis content d'être allé en ne sachant pas, je n'ai pas d'idée de comment. Je ne sais pas si j'ai fait du bon boulot ou pas, quoi. Ça, c'est difficile à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu dans les conditions qu'on m'a données, y compris la fatigue, etc., quoi. Moi, mon impression, c'est que, ouais, tu vois, un mec comme Stéphane Alix, il est dans tous les médias pour l'instant. Et finalement, c'est mon choix, c'est la seule émission qui donne un contradicteur, quoi. Honnêtement, ça me fait un peu peur, quoi. Je trouve que ce gars-là, c'est le gars qui fait la promotion de la parapsychologie en France maintenant, mais sous un angle qui est complètement foireux, quoi. Et ça. En fait, c'est une position vraiment bizarre parce que, évidemment, moi, je suis plutôt, ouais, en fait, il faut faire des recherches sur le paranormal, mais en gros, lui, c'est l'angle démagogique qui en vend du rêve aux gens, quoi. Non, je trouve qu'il faut que les sceptiques répondent à ce genre de gars, quoi. Du coup, surtout quand je vois que ces bouquins, qu'il y a des piles de ces bouquins dans tous les magasins pour le moment, hein, et des piles de 10 volumes, donc ils estiment qu'ils vont en vendre des tonnes, quoi. Du coup, non, j'étais quand même là, content de dire, ok, voilà, je lui ai fait du peer review en plein dans la gueule, sur le plateau de TV. En gros, c'est ça, hein, c'était du peer review direct. Qu'est-ce que je pense de ton expérience? Eh bien, c'est de la merde.
Je vais pas être le premier à lui dire, de toute façon.
Ouais, bah écoute, je sais pas, hein, moi, j'ai rien trouvé d'un point de vue sceptique à son sujet jusqu'à présent. Bon, son bouquin est nouveau, mais même. Si tu regardes scepticisme INRES sur Google, tu trouveras pas grand-chose, hein.
Ouais, c'est
Et
vrai.
pour l'instant, il y a Méninoton qui va, il y a le gars qui a écrit Les Fourmis, là, c'était
Verbe,
Verber,
ouais.
tous ces gens-là, ils gravitent dans ce truc-là. On se retrouve, ouais, en fait, c'est un groupe qui est en train d'exploser dans la conscience, enfin dans la culture française, là, au point que Limi, elle râle comme des bœufs, évidemment. Qui se positionne comme étant le groupe d'experts sur le paranormal dans tous les médias. Si c'est pas Alix lui-même, c'est les auteurs dont lui fait la promotion parce qu'il est directeur de collection. Là, j'ai parlé que de son bouquin, hein, mais dans la librairie de mon université, il y avait 10 des bouquins
Il y en a plein, ouais.
qu'il a édité, quoi.
Même
Et là...
sur leur site, il y en a, on voit dans le livre, il y a des tonnes de trucs, quoi.
Oui, alors ils ont publié un pseudo-bouquin, une sorte de manuel de psychologie animalistique, mais tous les journalistes qui ont écrit, enfin tous les gens qui ont, j'ai déjà trahi ma pensée, mais tous les gens qui ont écrit dedans, en fait, c'est aucun chercheur, c'est que des journalistes, quoi. Ou
Ouais.
alors c'est des gens comme le docteur Charbonnier qui sont des médecins, mais qui ne sont pas réellement des chercheurs, mais on les présente comme des chercheurs, quoi.
Ouais.
Et on propose ça comme un manuel de psychologie anomalistique ou de psychologie de la clinique des expériences exceptionnelles que vont lire les jeunes psychologues parce que c'est tout ce qu'on trouve en français. Alors qu'évidemment, il y a des super manuels extrêmement bien faits en anglais qu'on traduit pas, hein, voilà quoi. Et franchement, moi, ça me. Enfin voilà quoi. Je pense que non, frère, il faut un peu réagir à ça quoi. Il faut que l'AFIS fasse un numéro spécial sur le sujet ou je sais pas.
Ouais, bah voilà, s'ils nous entendent, faites passer le message. On va se mobiliser.
Voilà. Donc globalement, expérience humainement très difficile et en pratique, j'étais content qu'au moins dans une émission, il soit retrouvé face à quelqu'un qui avait des critiques à lui faire, quoi.
Ok.
Voilà mon mot de la fin.
Super. Bah, merci pour ce témoignage, je pense que c'était assez intéressant.
Et toi, tu irais dans une émission si on t'invitait?
J'hésiterais beaucoup en fonction du format de l'émission. Mais bon, ici, en soi, si ça avait été à Bruxelles, j'aurais été potentiellement intéressé. Mais là,
Ouais.
c'était fort loin, quoi, pour moi, quoi. Mais sinon, oui, je suis pas contraire à la base, tant qu'on a au moins l'occasion de s'exprimer plus que 30 secondes, quoi.
Ouais, c'est
Mais
clair.
le format que toi t'as eu, ouais, je pense que a priori j'irai aussi, quoi.
Ceci dit, pour info, ils payent tout, hein.
Ouais, c'est ça.
Ils m'ont payé le Thalys, l'hôtel, etc. Les taxis, c'est des taxis à eux, c'est une société privée. Pour cette émission, j'ai aucun frais, quoi. J'ai rien payé de ma poche, quoi.
Bah, c'est déjà
Au
ça.
moins ça, pour aller me
Ouais.
faire hurler dessus et me traiter d'incompétent.
Ouais, c'est clair.
Ben voilà, écoute,
Ok.
j'ai pu vider ma. Ouais, j'ai pu me dé... comment on peut dire? Faire ma catharsis sur le podcast en racontant mes malheurs.
Ouais.
Non, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que aussi de comment ça se passe, parce que. Ben voilà, s'il y a des jeunes sceptiques qui se disent je voudrais peut-être aller sur des plateaux de TV si on m'invite ou quoi, il faut. Ben voilà, ils ont eu au moins une émission qui fait déjà 1h20 Ouais, comment ça se passe réellement, quoi, concrètement, quoi. C'est le genre de choses que j'aurais été intéressé d'écouter moi-même, enfin, ou que je suis encore. Si, je suis toujours intéressé de discuter avec Florent Martin de comment se passent ces émissions, etc. Il faut qu'on fasse circuler ce genre d'infos, quoi.
Ok, voilà, bah, je propose qu'on clôture sur ce mot de la fin. Et voilà, bah, merci pour vos témoignages, je pense que ça intéressera les auditeurs en tout cas.
Bah oui, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et on se retrouve la semaine prochaine, soit avec moi, soit avec toi, soit avec Nicolas, on verra, ce sera la
Ouais.
surprise. Au revoir tout le monde.
Et à bientôt. Ciao.